Éphésiens 5 et nous allons voir un peu les versets 1 jusqu'à 7. Hein. C'est difficile de passer une continuité là, de penser, c'est difficile de savoir où s'arrêter, mais on verra, c'est peut-être le temps qui décidera. Donc, nous venons de voir dans le chapitre 4, hein, où il dit, voilà, votre ancienne nature faisait ceci, maintenant remplacez-le par autre chose. Hein, donc, revêtir l'homme nouveau, se dépouiller de l'ancien et de revêtir l'homme nouveau, adopter une nouvelle pensée, renouvelée dans l'esprit, de l'intelligence. Voilà, et terminer cette dernière pensée. C'est surtout n'attristez pas le verset 30, hein, chapitre 4, verset 30, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc c'était un peu. Après, il n'a fait que développer cela, des choses qui attristent le Saint-Esprit. Et quand on arrive au chapitre 5, donc verset 1, il dit devenez donc imitateurs, les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Déjà là, devenez donc des imitateurs de Dieu. Comment peut-on imiter Dieu? Hein? S'il nous avait dit imiter Paul, et Paul nous a déjà, il a déjà dit, hein, soyez mes imitateurs, là on a peut-être une idée, hein, c'est un modèle à suivre. S'il nous dit d'imiter Christ, on a une petite idée, hein, en lisant les évangiles, on peut voir. Mais là, imiter Dieu, comment imiter Dieu? Hein, en quoi est-ce qu'on imite Dieu? Parce que Dieu est divin, il n'a pas de corps, il ne marche pas sur terre. Comment imiter Dieu?
Soyez saint comme je suis saint, pas possible.
Tu as vu mes notes?
Non.
Et Dieu s'est résumé en disant je suis saint. Et donc comment imiter Dieu? C'est d'être saint. Et c'est une chose qui est rappelée hein, plusieurs fois. Déjà dans Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11. Donc dans l'Ancien Testament, là où c'est pas la première fois qu'il le dit, mais c'est dans les premières fois. Lévitique chapitre 11. Et où il est en train de traiter en fait de ce qui est pur et impur. Il y a plusieurs fois, hein, si vous voulez faire l'étude, toutes les fois qu'il dit soyez saints car je suis saint, c'est très intéressant comme étude. Mais là, je prends juste, j'en choisis, hein. Donc, Lévitique 11, versets 44 et 45, il dit: Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez, vous serez saints car je suis saint. Vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints car je suis saint. Donc il y a une première notion là, c'est cette idée, je vous ai fait sortir de l'Égypte. Ce n'est pas seulement le fait de physiquement sortir de l'Égypte, mais c'est qu'avec tout ce que l'Égypte représente, hein, tout ça devait être laissé en arrière. Oui, ils en ont pas mal emporté, parce que ça ressort tout le long des 40 années dans le désert. Comme disait quelqu'un, Dieu les a fait sortir de l'Égypte en une nuit. Mais ça a pris 40 ans pour faire sortir l'Égypte d'eux. Et nous rencontrons le même problème. Hein, mais il a dit, il y avait des animaux purs, des animaux impurs, ce qu'il fallait manger, ce qu'il ne fallait pas manger, il y a des actes, il y a toutes sortes de choses, il y a beaucoup de lois. Mais la question, c'est cette idée de chercher à être pur dans la pensée de Dieu, parce qu'il est saint. Hein, et il a dit, je vous ai fait sortir du pays, c'est pour vous purifier, pour vous sanctifier, pour que vous. Et par différents moyens. Et c'est sûr que lorsqu'on voit tous les moyens, que ce soit lorsqu'il décrit la lèpre, il dit, mais celui qui est lépreux, eh bien, qu'il soit mis hors du camp, parce que le camp doit rester saint, car Dieu est saint. Quand il dit, qu'il parle de toutes les relations possibles, ou qu'il interdit, hein, les relations incestueuses, les relations d'infidélité et tout ça, il dit non, non, il faut rester pur, tout ça doit être éliminé parce que je suis saint. Hein, et donc, dans un sens, et puis c'est ce que, en fait, on pourrait voir aussi au chapitre 20, donc Lévitique 20 et au verset 26, il dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel, qui vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi. Hein, et là, c'est tout un chapitre qui parle de pas avoir de connaître ni la belle-mère, ni la fille, ni la tante, ni ceci, cela, une pureté morale. Et il dit, mais moi, je vous ai mis de côté, hein, je vous ai séparé du reste des peuples pour que vous soyez saints. Et la pensée de Dieu n'a pas changé dans le Nouveau Testament. Même si cette pureté s'exprime un peu différemment, mais il fallait que, avec des gens qui sortaient de l'Égypte et avec toute la culture égyptienne qu'ils avaient acquise et les pensées-là, il fallait quelque chose de concret, des règles. Hein, ça se mange, ça ne mange pas, ceci, cela. Alors que aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est plus des principes spirituels, moraux, qui nous sont donnés. Et même 1 Pierre chapitre 1, verset 17, je crois que c'est, il dit d'être saint, car Dieu est saint, hein, et de ne pas nous mélanger au monde. Et c'est cette idée-là, comment être des imitateurs de Dieu? Eh bien, c'est justement d'être, le mot saint, ça veut dire d'être pur et consacré à Dieu. Et dans l'évangile, lorsque je viens à Jésus-Christ, je suis déclaré saint. Et ensuite, et une fois déclaré saint, commence cette œuvre de sanctification. Et où, normalement, hein, dans une vie chrétienne normale, eh bien, au fur et à mesure que ça avance, eh bien, la sanctification augmente. Et nous sommes de plus en plus, nous rapprochons à cette sainteté que le Seigneur recherche. Donc il dit, devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Bien-aimés, Dieu l'a déjà démontré. Hein. Dieu prouve son amour. Dieu a tant aimé le monde. Il dit, vous êtes des enfants bien-aimés. Parce que vous êtes bien-aimés du Père, donc soyez saints comme votre Père est saint. Hein, votre Dieu, notre Père. Il dit, marchez dans la charité. Donc la première chose, devenez saint comme Dieu est saint. Deuxièmement, marcher dans l'amour, hein, la charité, à l'exemple de Christ. Donc, le modèle d'amour, ce n'est pas un modèle terrestre, ce n'est pas un cinéma, ce n'est pas un artiste qui va nous faire connaître ça, mais c'est Christ, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. Hein, et c'était un peu l'esprit qui nous donne déjà avant, hein, de nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Hein, et comment est-ce qu'il nous a aimés? Eh bien, il s'est livré lui-même. Hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ici, Jésus nous a tant aimés qu'il s'est livré lui-même. C'est un amour qui se sacrifie dans l'intérêt de l'autre. Hein, donc, il n'y a pas de place pour l'égoïsme ou l'égocentrisme. Et il dit, il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme. Et là, il parle d'une offrande et d'un sacrifice. L'offrande, c'est de la reconnaissance, c'est l'adoration et la reconnaissance, l'action de grâce. Et le sacrifice, c'est le sacrifice d'expiation. Donc en fait, Jésus a fait les deux. L'offrande, c'était dans le jardin de Gethsémané, quand il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est là où il s'est offert, lui, sur un autel. Entre lui et le Père. Et donc, il s'est engagé, il a confirmé sa soumission, il s'est donné pleinement. Et puis, sur la croix, eh bien, c'était, il dit, je me donne en tant que sacrifice pour d'expiation pour ce peuple. Et il était, et dans les deux, il était notre offrande et notre sacrifice. Hein, mais c'est par amour qu'il l'a fait. Hein, c'était comme les publicains, les pharisiens, tout ça, lui disaient, mais si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Et comme en fait, ce n'est pas parce que les clous l'ont retenu sur la croix, c'est son amour pour nous qui l'a retenu à la croix. Hein. Les clous n'auraient pas pu le retenir. On a essayé de tester. En fait, le diable aurait bien voulu qu'il descende de la croix pour que l'expiation ne se fasse, le sacrifice ne se fasse pas. Mais Jésus a été fidèle jusqu'au bout parce que la veille, eh bien, il a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, dans ce contexte-là, hein, nous devons être saints comme Dieu est saint, nous devons aimer comme Christ a aimé. Eh bien, qu'est-ce que matériellement, c'est-à-dire dans notre marche de tous les jours, comment est-ce que s'exprime? Eh bien, il parle à des chrétiens, hein, à Éphèse, il parle à des chrétiens, il n'est pas en train de parler aux Éphésiens. Le truc s'est arrêté pour eux, hein. Tant pis. Donc, il dit, ils sont dans une ville où la divinité, c'est Diane, hein, Éphèse, c'est Diane, la déesse des Éphésiens. C'est une déesse très sensuelle. Et il y avait de gros problèmes, hein, sexuels, moraux et tout cela. Et même dans le temple de Diane, qui était l'une des sept merveilles de l'ancien monde, même là, les prêtres étaient tous des eunuques. Hein. Et elle était la déesse de la fécondité, la déesse des jeunes filles. Donc c'est dans cet esprit-là qu'il existe, et il y a l'Église qui doit se développer dans ce milieu-là. Hein, mais bon, je ne crois pas qu'on soit très loin de ça aujourd'hui. Hein. Notre monde ressemble beaucoup à cela, et nous sommes appelés à être purs dans un monde qui a rarement les pensées pures. Et donc, alors là, il va exprimer directement, il va dire que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, hein, morale, que la cupidité, et la cupidité là encore, c'est pas seulement être cupide de l'argent, mais c'est la cupidité, la passion, hein, et tout est dans le contexte sexuel et moral là, cette cupidité sexuelle, il dit que ça ne soit pas là, qu'il ne soit même pas nommé parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. Voilà, on revient à notre esprit et à la pensée de saint. Il a dit ça, on ne doit même pas en parler, ça ne devrait pas. Alors que nous sommes dans un monde où ils en font des blagues, où ils en font, on a du mal à échapper, on ne peut pas regarder la télévision sans le voir, on ne peut pas regarder, c'est dans tous les sens qu'on regarde, on le voit, on l'entend, ce n'est pas évident. Hein, mais il dit, mais que ça soit parmi vous, ça ne doit pas être. Malheureusement, et le fait est que même dans les églises aujourd'hui, hein, il y a beaucoup d'impuretés qui ne devraient pas être, et même au sein de familles, et beaucoup de choses qui ne devraient pas être. Et il dit ça ne doit pas être. Il dit au verset 4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, et c'est toujours dans le même contexte, ni propos insensés. Hein, donc on pourrait penser, le mot c'est vraiment de fou, hein, de bouffonnerie, des bêtises, mais toujours dans le sens, et vous savez qu'aujourd'hui, ben, quand il parle de comédie humoriste, ben, alors c'est toujours des saletés qu'on ne peut pas écouter. Ni plaisanterie, encore là c'est de la plaisanterie, mais dans le sens, hein, les blagues qui ne devraient pas... Hein, que, malpropre. Hein, j'ai regardé un peu de plus près là le sens. Et, je ne sais pas, peut-être vous connaissez ces mots-là, la paillardise, ou bien la grivoiserie. Hein, les choses, c'est vraiment. Mais c'est l'humour d'aujourd'hui, hein, au travail, quand on travaille dans le monde. Hein, c'est ça qu'on a. Hein, la seule chose que nous, on peut faire, bon, c'est déjà quand ils essayent la première fois, ils essayent de nous la raconter. Puis on fait une remarque, et puis on ne rit pas, et puis on montre que ça ne nous amuse pas. Et alors après, ça risque de se prévenir. Mais quand ils sont en groupe, hein, c'est à nous de nous écarter, hein, parce que quand ça part dans ce sens. Mais de nos jours, hein, mais c'est ça, ça existait à Éphèse, mais dit aux chrétiens, ça, c'est pas pour vous. Et il appelle tout ça des choses qui sont contraires à la bienséance. Il dit plutôt, hein, ce qu'on devrait entendre, hein, c'est des actions de grâce. Je lisais un commentaire et puis il disait une fois, il était comme ça, puis c'est une grande rencontre. Et puis les dames sont parties pour autre chose. Et puis il y en a un qui dit, eh ben, maintenant que les dames sont parties, j'ai une blague à vous raconter. Et il y a un des frères qui répond et dit, mais tu sais, le Saint-Esprit, il est toujours là. Hein? Donc est-ce que c'est une blague que lui peut entendre? Et l'autre, il s'arrête, il a répondu, il a dit, merci frère, je suis repris, tu as raison, et je dis rien. Mais dans un sens, hein, quand on commence, d'un coup, il y en a qui trouvent ça drôle, et puis bon, les choses. Nos enfants qui vont à l'école, ils entendent, ils sont exposés à de ça, de partout, maintenant, à nos jours, un garçon de 15 ans, il en sait plus que ce que nous, on savait à 30 ans, hein, et c'est terrible. Mais il dit dans l'Église, hein, dans le contexte entre frères et sœurs, et que autant que possible, qu'on n'entende que des actions de grâce. Hein, si tu n'as rien à dire, c'est ça qu'il avait dit un peu plus tôt, hein, dans le chapitre 4, il disait, chapitre 4, verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il dit, si tu n'as rien de bon à dire, ne dis pas. Hein, c'est un peu ce qu'il est en train de dire. Car, verset 5, donc chapitre 5, verset 5, dit, car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, hein, et par ailleurs l'apôtre Paul dira que la cupidité, c'est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc elle n'a pas sa place. C'est tout. Ça ne convient pas. Pas plus que un cochon ne convenait dans une synagogue. Ça ne convient pas dans l'église de Jésus-Christ. Hein. J'avais entendu quelqu'un qui a dit, il parlait d'être aussi mal à l'aise qu'un sandwich au jambon dans une synagogue. Et il dit, c'est pas mon milieu. Ben c'est ça, un chrétien, on doit, autant que possible, hein, si on voit que. Bon, si on ne peut pas avoir une influence sur la chose, eh bien on se retire. Mais on ne peut pas rester dans ce genre de choses, parce que ça pollue quand même la pensée. Hein. Et à force de l'entendre, hein, on me dit non, mais moi, bon, j'ai l'habitude, j'ai endurci un peu. Oui, mais à force de l'entendre, moins on est sensible, hein, et moins on est choqué. Hein. Avant, il y avait, je crois que c'était une semaine ou deux, hein, j'avais dit, hein, il y avait une époque où les filles rougissaient, hein, quand elles entendaient certaines choses. Maintenant, on ne rougit plus, elles rigolent avec les autres. C'est plus, on s'est endurci. Hein, et des choses qui. On regarde, c'est étonnant, hein, ce qu'on peut. On arrive à regarder à la télévision, et puis il y a des scènes qui passent, et puis on dit, bon, c'est pas trop méchant, ça va, c'est. Ça suggère seulement, ça ne c'est pas là, mais voilà, on s'est endurci, on s'est habitué, et c'est comme la conscience. Si on ne garde pas la conscience sensible, eh bien finalement, elle finit par se taire, hein, et après, on ne réagit plus. Et donc, verset 6, il dit, écoutez, que personne ne vous séduise par de vains discours. Il dit que personne ne vous dise, bon, non, mais tu es trop. On n'est plus sous la loi, hein, on est sous la grâce. Et puis, non, mais écoute, tu te crois plus orthodoxe que nous autres. Et puis, on entend tous ces commentaires, hein, ils sont là. Et il dit, ouais, mais vous êtes vieux. Maintenant, on est habitué. Il dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Justement, hein, il dit, comme c'était au jour de Noé, le jugement est venu. Comme c'était au jour de Sodome et Gomorre, le jugement est venu. De même viendra, hein, il y a un jugement aussi pour ce monde. Et donc, l'exhortation finale, il dit, n'ayez aucune part avec eux. Avec ces gens-là qui essayent de vous mettre un peu de l'eau dans leur vin et puis qui essayent de bon dire que c'est pas si méchant et faut pas être trop dur et puis on est là dans le monde, on n'est pas des ermites qui nous retireront. Non, non, c'est il dit ça ne doit pas être que ces choses ne soient pas même nommées parmi vous. Hein. Donc que le Seigneur nous aide, hein, c'est même si les gens font des remarques, ils disent toi, tu es vraiment, vraiment à l'ancienne. Eh bien, je préfère être à l'ancienne et du côté du Seigneur et tout seul que avec la majorité et puis que le Seigneur eh bien, trouve que nous sommes manquants dans notre consécration et notre marche sainte. Hein, que la sanctification soit un processus qui ne s'arrête pas, qui continue tout le long de notre vie. Et donc, l'exhortation, c'est à des chrétiens, et les Éphésiens, ce n'est pas les Corinthiens, c'est les Éphésiens, ce n'est pas les plus mauvais des chrétiens, mais il leur dit cela, il dit, attention, faites attention, c'est un piège, ça peut être un piège, ça rentre facilement dans l'Église, et si on ne fait pas attention, bien on a une Église qui ressemble à celle de Corinthe. Où il y a des choses qui dit, il y a des choses qui se passent dans l'Église que même les gens du monde condamnent. Hein, donc, et de nos jours, ça existe aussi. Hein, et c'est malheureusement, même l'État est obligé de juger des gens d'Église qui sont pas, qui ne représentent pas la pensée de Dieu. Donc, le Seigneur nous aide, c'est en tous les cas que nous ne soyons pas coupables de cela. Et que faisons tout aussi pour nous protéger et pour éviter que les choses se passent, hein, et que soyons vigilants, hein, que le Seigneur nous aide. Dans tous les cas, l'exhortation est claire, et il le dit avec des mots clairs, et donc nous devons faire très attention. Voilà, nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions encore une fois parce que tu es un Dieu saint. Et tout en étant saint, tu as pu penser à l'homme pécheur. C'est comme les enfants d'Israël en Égypte, tu es quand même descendu pour voir ce qui leur arrivait. Et tu as mis en place un plan pour les sortir de là. Et Seigneur, de même pour nous, tu as vu dans quel état nous sommes. Tu as vu Lot dans Sodome. Et tu l'as tiré de là un peu avec des forceps. Hein. Et Seigneur, et nous sommes dans ce monde, et tu sais que nous sommes là. Et Seigneur, nous te prions de nous garder. Et que ce ne soit pas seulement des pensées pieuses que nous ayons, mais que ce soit vraiment une vie pure. Et que nos pensées soient pures. Et que Seigneur, que le monde, dans sa impureté, soit gêné par notre présence et non pas nous par la leur. Et Seigneur, qu'ils se retiennent. Et Seigneur, qu'ils soient repris, hein, dans leur conscience. Et Seigneur, nous te prions de nous aider à marcher pour toi, à vivre pour toi. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.